Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpino.
C'est parti !
De quoi la bisexualité est-elle le nom ? Se présenter comme bi, est-ce forcément se condamner à l'anonymat sexuel ? À l'opprobre public ? Invisibilisés, méprisés, chosifiés, les bis sont-ils et elles les grandes victimes du patriarcat ? Ou les nouveaux cool kids ? On va en parler cette semaine avec Anne-Laure. Salut !
Salut !
Comment ça va ?
Ça va très bien, je suis en ce moment en pré-carton. C'est-à-dire, je me demande comment tout va rentrer dans des cartons, puisque je vais déménager d'un lieu de Montreuil à un autre lieu de Montreuil.
Tu restes pas de chez moi quand même.
Oui.
Alors, pour revenir au thème de la semaine, on oublie trop souvent le B dans LGBT+. Et pour cause, depuis longtemps, on refuse le droit de citer à cette sexualité, la bisexualité. Donc, cette semaine, on va parler de bi erasure, comme on dit en anglais, donc l'effacement des bi.
On me voit, on me voit plus.
On va se demander comment une orientation sexuelle peut être cool, considérée comme cool ou au contraire méprisée. On va aussi parler de la nouvelle série anglaise The Bisexual.
Bisexuality is a myth. It was created by ad executives to sell flavored vodka.
Qu'on a aimé. Mais voilà, surtout, il va s'agir d'évoquer à la fois l'orientation, l'attirance, l'identité, puisque tout ça est un peu mêlé ici, donc on va essayer de démêler tout ça, et essayer de savoir de quoi on parle quand on parle de bi-curieux, d'hétéro-flexible, de bi-romantique. D'ailleurs, le groupe anglais Blur le chantait déjà à l'époque dans sa chanson.
Alors, pour faire un petit rappel historique et étymologique, déjà, le bisexuel, il y a bi, donc, qui vient du mot deux. C'est apparu à la fin du 19e siècle. À la base, ça n'a pas tellement de rapport avec la sexualité. En fait, c'est plutôt un rapport avec la biologie.
Sans surprise.
Oui. On mélangeait un petit peu tout, hein, soyons honnêtes. Donc, c'est la potentialité de devenir mâle ou femelle. Par exemple, quand l'embryon se développe, voilà, pour ce genre de choses. Notre ami Freud a bien contribué à ce petit flou. Selon lui, la bisexualité psychique est innée. Chaque être humain serait à la fois féminin et masculin. Et donc attiré par l'un et l'autre sexe. Bon, par contre, depuis, on a un petit peu déconstruit les choses. Hein. Aujourd'hui, on considère bien que la sexualité et la biologie, c'est deux choses différentes, heureusement. Et surtout que ce n'est pas un truc figé ou binaire. On parle plus d'orientation sexuelle et surtout, ça, par définition, ça peut changer. On parle plus de ça que d'identité genrée en tant que telle. Donc bi, ça peut être un comportement ambisexuel, c'est-à-dire qu'on peut sortir avec quelqu'un du même sexe que soi pendant un moment, ou sortir avec les deux sexes au même moment. Voilà, il n'y a pas de loi, c'est une alternance en simultanéité, on fait un peu ce qu'on veut. On peut être hétérosexuel et homosexuel à la fois, ou l'un après l'autre. Voilà, c'est un peu de ça dont on parle quand on parle de bisexualité. Mais encore une fois, tout ça, c'est un jeu des étiquettes. On choisit de les porter ou pas. On peut écouter d'ailleurs le chanteur Jan Alexander qu'on a entendu dans le documentaire d'Arte, La bisexualité, tout un art, qui parle de ça très bien.
Il y a longtemps, j'avais dit à mes parents, écoutez, je suis avec un homme. Bon, mon père l'avait plutôt bien pris. Ma mère a dit, c'est encore une provocation de ta part. Enfin, t'es vraiment perplexe. Mais bon, ils s'y sont faits. Et puis un jour, je me ramène avec une nana à la maison, sans rien dire, sans même leur expliquer quoi que ce soit. Je crois qu'en fait, ils ont abandonné toute tentative de comprendre.
Alors, c'est vrai que pour moi, l'histoire de la bisexualité, c'est aussi une histoire de l'oubli et de l'effacement, puisque les personnes bi ont souvent été effacées de l'histoire à la fois par les hétéros, mais aussi par les gays et les lesbiennes.
Et comment ?
Ouais. Y a d'ailleurs un article qui est paru aux États-Unis qui s'appelle « The Epistemic Contract of Bisexual Erasure » qui a été écrit par Kenji Yoshino, qui explique très bien que quand on a une vision binaire du monde, en fait, tout le monde gagne dans l'affaire en squeezant les bi de la conversation et du paysage. Donc c'est vrai qu'historiquement, les bis ont été exclus à la fois des groupes homo, en tout cas aux États-Unis. Les femmes bis se sont aussi fait jeter par les lesbiennes. Et il a vraiment fallu attendre les années 70 pour qu'il y ait une visibilité, notamment avec des personnalités comme David Bowie, voilà, qui n'en faisait pas un secret à l'époque. Mmh. En France, il faut attendre 1997, c'est quand même hyper tard, pour que l'association Bicause se fonde. Et ouais. Aux États-Unis, c'est l'année d'après, pardon, en 98, qui est fondé le American Institute of Bisexuality. Tout ça, ça a été d'autant plus difficile à mettre en place, à mettre en œuvre, que les personnes bi elles-mêmes, parfois, ne se définissent pas comme telles. Elles se disent, je sais pas, je suis sortie avec un mec, mais en fait, je suis Gwyn, j'ai pécho une fille, mais en fait, je suis gay.
Ou j'ai pas d'étiquette, je préfère pas vivre avec ça.
Voilà, c'est ça. Et donc, souvent, finalement, à cause d'une mauvaise image de la bisexualité, les personnes ne veulent pas non plus faire leur coming out en tant que bi. Donc, il y a un sondage IFOP pour la France qui date de janvier 2017 qui dit. Donc, ça, c'est du déclaratif, donc il faut bien faire attention à la différence entre les pratiques réelles et ce qu'on dit de soi, la manière dont on se définit. 4% des Français, donc hommes, se disent bi, et 2% des femmes françaises se disent bi. Alors qu'aux États-Unis, donc dans une étude de 2009, 3,1% des adultes américains et américaines s'identifiaient comme bi, alors que 2,5% s'identifiaient comme gays ou lesbiennes. Donc, en tout cas, aux États-Unis, c'est vraiment une majorité invisible, en fait, et la plus importante population parmi les personnes LGBT+. Mmh.
Donc, ça peut être pareil en France, on imagine.
Bah oui, c'est ça. Il y a un article publié dans le Los Angeles Times par Emily Alpert qui s'appelle « Why Bisexuals Stay in the Closet » qui a été publié en 2014, qui explique qu'en fait, à cause des préjugés dans la société à l'encontre des personnes bi, aux États-Unis, seulement 28% des personnes bisexuelles font leur coming out et font connaître leur orientation auprès de leurs proches ou de leur famille, comparé à 71% des lesbiennes et 77% des hommes gays. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup moins. On sait notamment que voilà, les hommes bi ont parfois peur d'en parler à leur partenaire féminine, de ne pas être compris, d'être catalogué. Voilà.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'invisibilité des bis, elle existe aussi au point de vue institutionnel. On ne parle pas des bis puisqu'on ne les définit pas trop. On n'étudie pas leur vie, la population qu'ils et elles forment. Dans History of Bisexuality, Steven Angelides pointe ce paradoxe-là, en fait. C'est vraiment important de le pointer. En France, c'est Natacha Chetkouti qui est sociologue et qui a mené une super grande enquête sur la sexualité des lesbiennes et des bis en 2010.
C'était, ouais. On a l'impression que c'est vraiment la seule. Elle a un peu le monopole de la bisexualité en France.
C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup interviewer Natacha Chetkouti. elle disait donc au site YAG donc en 2010 « Il est vrai que souvent, pour l'homme hétérosexuel, une femme se doit d'être un objet sexuellement disponible. » Une femme qui a plusieurs partenaires, notamment féminins, est vite considérée comme une putain. Pas un homme. Le premier but de cette enquête est donc de comprendre comment les femmes homosexuelles ou bi vivent leur sexualité dans un contexte hétérosexiste. Mmh. Oui, parce qu'il se rajoute un petit peu ça.
ça se complique.
C'est vraiment très compliqué, ça fait partie de l'invisibilité des bis. Quand on fait son coming out, par exemple, pour un homme, il y a l'ombre de, par exemple, dans les années 90, l'ombre du sida qui planait, donc qui pouvait empêcher les hommes de faire leur coming out bi auprès de leur partenaire féminin. Et pour les femmes, il y a cette complexité de aussi correspondre à un fantasme.
Hétérosexuel,
exactement, hétérosexiste. D'ailleurs, le think tank américain MAP avait fait une enquête justement sur ça. Ça s'appelait « Understanding Issues Facing Bisexual Americans », qui montrait qu'en plus, les personnes bisexuelles avaient beaucoup plus de risques de subir de la violence de la part de leur partenaire sexuel. 46% des femmes bisexuelles ont vécu du viol. Et alors que ça correspond à 13 à 17% des femmes lesbiennes ou des femmes homosexuelles aux États-Unis.
Oui, tu le dis, c'est une communauté qui est à risque, d'autant plus qu'elle cumule plusieurs oppressions. Déjà la misogynie, puisqu'il y a une vraie fétichisation des femmes bisexuelles dans la psyché, c'est considéré comme... quelque chose de très excitant, n'est-ce pas ? Mmh. Y a aussi une part d'homophobie, puisque tu l'as dit, les hommes se sous-déclarent bi, parce qu'il y a toujours un tabou qui persiste sur les rapports homo. Et en plus, il y a aussi la peur de ne pas être perçu comme un homme, un vrai.
Ouais, toujours un petit peu misogynie dans l'homophobie, hein, ne l'oublions pas. Et aussi, dans les communautés lesbiennes et gays, il y a une très forte biphobie. Hein. Certains et certaines bi peuvent subir, par exemple, des expressions comme « tu es un traître à la cause » ou « tu dis que tu es bi pour faire passer la pilule à toi et à ta mère parce que tu n'as pas le courage de faire un coming out en bonne et due forme ». Voilà, les personnes bi peuvent subir aussi, de façon déguisée, une biphobie avec des expressions utilisées dans les milieux LG comme « pur sang ». Ou Golden Star, donc le pur sang, c'est le gay qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec une femme, et la Golden Star, une lesbienne qui n'a jamais eu de relation sexuelle
c'est
avec un
homme. C'est l'équivalent du F de souche.
Voilà, c'est un peu ça, c'est cette impression qu'on est pur quand on n'a pas,
fricoté
vu le loup ou le beaver. Il y a même on m'a parlé d'une sous-catégorie pour les purs sang. Ceux qui sont nés par césarienne.
Ouh là là.
C'est-à-dire, ils n'ont vraiment jamais vu un vagin de leur vie.
Okay.
Donc, on en est là, quoi. La biphobie est là. Alors, du coup, face à ces horreurs, en fait, on peut le dire comme ça, la visibilité, c'est une arme vraiment très importante. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'association Bicos, qui n'est arrivée qu'en 1997. Il y a l'association Fier aussi, qui fait beaucoup de choses pour les femmes bi. Il y a la journée de la visibilité bi qui a été mise en place il n'y a vraiment pas longtemps en France, c'est tous les 23 septembre. Il y a peu de communautés visibles, comme on le disait, de signes distinctifs, pas de look ou de lieu.
Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on n'irait pas visiter ce petit bar bi ? Mais non, car il n'existe pas.
Mais non, il n'existe pas. Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de bars intersectionnels. Je pense par exemple à la Mutinerie à Paris, où les personnes bi sont évidemment bienvenues. Mmh. Mais voilà, il n'y a pas de lieu estampillé bi, mais il y a des applis qui existent. Par exemple, ByCupid, Finder. Vous pouvez trouver donc des personnes qui partagent votre orientation sexuelle. On écoute un peu la version française de la série Scam. Le personnage raconte avec qui elle sort et comment.
Et c'est cool d'être bi, non ? Genre, t'embrasses toutes les meufs que tu veux, tu sors avec un mec, tranquille, et tout le monde pense que t'es hétéro.
Sauf que ça marche pas comme ça. Pourquoi j'allais me foutre avec un mec ? Si je kiffe une meuf, bah je kiffe une meuf. Tu choisis de qui tu tombes amoureux, toi ? Bah voilà.
Alors, on va parler un petit peu de notre expérience. Moi, c'est vrai que de mon côté, j'ai déjà entendu des petites piques comme « t'es pas bi si t'as eu qu'une seule meuf ». Alors que pour moi, c'est d'abord lié à ce qu'on ressent et pas à l'obtention d'un diplôme, je crois. Mais c'est vrai que je trouvais ça assez paradoxal, puisque par exemple, être bi en couple, que ce soit en couple hétéro ou en couple homo, ça revient souvent à mettre en sommeil tout un pan de son identité sexuelle. C'est le cas par exemple de l'actrice Anna Paquin aux États-Unis, qui est mariée donc à un homme hétéro et qui est tout le temps obligée de rappeler qu'en fait, ses pratiques sexuelles du moment ne disent pas tout de son identité ni de son parcours sexuel. Donc elle est obligée de rappeler à chaque fois que c'est pas parce qu'elle est mariée qu'elle n'est plus bi. Voilà. Après, de mon côté, moi, j'ai fréquenté au moins deux hommes bi, enfin déclarés comme tels. Et sans essentialiser les hommes bi, moi, j'ai trouvé que c'était une expérience très positive, parce que c'est des gens qui avaient une certaine ouverture d'esprit et aussi une compréhension des problématiques de genre de par leur vécu. Donc voilà. Et toi, Anne-Laure ?
Mais c'est vachement intéressant parce que tu parles d'ouverture d'esprit. Et en fait, moi, ça fait plusieurs années que je parle de la biphobie, que je travaille dessus. Et c'est intéressant parce que la biphobie, moi, je l'ai toujours considérée comme une discrimination parmi tant d'autres, sans me rendre compte que moi-même, j'étais passée par des réactions qui pouvaient éventuellement passer pour biphobe. Déjà, rien qu'en parlant de moi, j'avais couché avec des meufs. Et quand je me suis remise avec des garçons, on m'avait dit « donc tu es bi ». Et ça... Pour moi, ça avait été, je l'avais rejeté tout de suite. J'avais dit non, je ne suis pas bi. C'est pas ce que je suis.
Mais
vraiment
parce que,
pas.
Parce que tu voulais pas t'identifier au terme ou que c'était péjoratif ?
Pour moi, il y avait quelque chose de absolument, je rejetais ce mot-là pour tout ce qui voulait dire que je suis indécise, que je suis un peu sans substance,
indéfinie dans le flou,
un peu lâche. C'est comme ça que je voyais ce mot parce que c'est ce que j'entendais de l'extérieur en fait. Et voilà. Après, j'ai commencé à me dire lesbienne puisque c'est comme ça que je m'identifie vraiment. Mais autour de moi, il y a par exemple des lesbiennes qui ont décidé de le vivre comme ça alors qu'elles sont fondamentalement bi. Et elles le font parce qu'elles se disent féministes et qu'elles ne veulent plus avoir des relations avec des hommes malgré le fait qu'elles soient attirées par eux. Mmh. Voilà, pour leur opinion féministe, voilà, ce qui est encore autre chose.
C'est plus du lesbianisme idéologique.
Voilà, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment j'ai refusé ce mot-là. Est-ce que j'ai eu peur d'être cataloguée? J'ai toujours pas cette réponse, mais ce genre de travail permet de poser. On a le droit, en fait, de réfléchir, on a le droit, encore une fois, d'être fluide et dans la sexualité et dans la réflexion.
Bien sûr. On va écouter le témoignage maintenant d'Anne et Alice, qui sont les créatrices du compte Instagram PayTabi.
En fait, avec Anne, on se connaît depuis un petit bout de temps maintenant. On discute beaucoup.
Trop.
beaucoup trop. Et on s'est très vite rendu compte qu'on était bi toutes les deux. Moi, pour ma part, j'ai compris que je l'étais sans avoir forcément les mots pour le dire, que j'étais bi quand j'étais au collège. Et puis, ouais.
Donc ça fait un petit bout de temps pour Alice, c'est comme clair. Pour moi en fait. Et moi, donc pareil, c'était au collège. Et la première fois que j'en ai parlé, c'était à un garçon, j'avais 23 ans. Et il m'a juste rayonné. Donc, bienvenue parmi la bisexualité.
C'est clair.
Donc, on était bien partis.
C'est clair. Putain, mais toi, t'as réussi à en parler à 23 ans. Moi, j'en ai parlé rapidement, mais sans avoir encore une fois les mots. Et pour le coup, quand t'es au collège et que t'en parles, c'est chaud.
C'est compliqué, ouais.
Ah, c'est hyper.
Et en fait, on s'est rendu compte que c'était encore compliqué aujourd'hui.
Ouais, ben non, mais c'est ça, en fait. Hein, clairement.
Donc, on a beaucoup parlé de nos expériences et on s'est rendu compte que la complexité était tout autant identique auprès de partenaires comme entourage, amis, famille, enfin pas encore famille d'ailleurs.
Ouais, il faut savoir que Anne et moi, on n'est pas...
On ne dit pas nos noms de famille, parce que nous ne sommes pas outés auprès de nos familles.
Exactement. Donc ce compte nous sert aussi à nous donner du courage et... Enfin, potentiellement en tout cas.
Oui, voilà.
Voilà.
Et donc, on a eu cette idée, parce qu'on s'est dit simplement qu'on n'était pas seuls. Et qu'on pouvait tous en parler ensemble et s'entraider et bien évidemment donner de la visibilité à cette sexualité-là. Parce que c'est juste une sexualité qui est fluide. C'est pas du tout des cases, une fois de plus. On déteste ça, c'est les petites cases. Parce qu'évidemment, quand on nous voit avec une femme, on est lesbienne. Et quand on nous voit avec un homme, on est hétérosexuel.
Voilà.
Donc, tout part de là.
Exactement, tout part de là.
Bah, on s'est rendu compte que la bisexualité chez les hommes, c'est réel. Mais qu'elles sont encore moins visibles que chez les femmes. Et d'ailleurs, nos statistiques le montrent à nouveau. Hein, on n'est qu'à 14% de followers masculins. On est pour l'instant à zéro témoignage de la part des hommes.
Ouais.
Donc, on a envie d'en parler au sens plus large, en fait. Que tout le monde puisse en parler. Et c'est pas une maladie. On en sort vivant.
Tout va bien. C'est normal, c'est clair. Parce que quand, avant de lancer le compte, on n'était pas certaines non plus que c'était une bonne idée. Enfin, on avait un peu peur. Et on en a parlé pas mal autour de nous, et notamment une amie qui travaille au KLIF.
LGBT, donc une... En fait, c'est une asso étudiante qui regroupe toute la communauté LGBT. J'espère qu'on n'a plus besoin de mentionner ce que veut dire LGBT, parce qu'on me l'a demandé il n'y a pas longtemps. Donc, LGBT, lesbienne, gay, bisexuel, donc le B, bisexuel, était trans. Et donc, en fait, on nous a clairement confirmé que c'était une bonne idée parce qu'elle-même, déjà, combat la biphobie au quotidien et en parle autour d'elle.
C'est ça. Et pour le coup, aussi, même en plus de cette autre amie, on cherche les hommes. Donc, voilà. C'est ce qu'a dit Anne. Effectivement, ils sont que 14% à nous suivre. C'est déjà bien. Merci, les gars. Mais on présume aussi que la bisexualité est la même, en termes quantitatifs, chez les hommes que chez les femmes. Que, à force de stéréotypes, les femmes bi sont soit vues comme des lesbiennes auprès des hétéros, soit comme des cochonnes ou plein de choses. Et que les hommes sont essentiellement vus comme tout simplement des PD.
Voilà. Et du coup, donc on dit PD exprès parce qu'on sait que c'est un langage. Insultant, hein, donc parce que c'est ça qu'ils entendent, en fait. C'est peut-être la raison même qui fait qu'ils sont pas outés, qu'ils peuvent pas vraiment en parler.
Exactement, parce que on sait qu'ils existent, voilà. On sait que vous existez, parce qu'on a reçu des témoignages d'hommes homosexuels qui nous disaient « mais moi j'ai eu plein d'expériences sexuelles, voire autres, avec des hommes qui étaient initialement en couple avec des femmes, donc je présume qu'ils sont bisexuels ». Mais ils
n'en parlent pas.
Ils n'en parlent pas. Donc cette page, c'est pour vraiment sortir tout le monde de
ce silence. Ouais,
de ce silence, en fait.
Alors c'est intéressant, je trouve, dans cette pratique militante, puisque donc elle remarque qu'elles n'ont reçu aucun commentaire d'hommes bi, alors que pourtant ils existent.
Oui.
Donc voilà, il y a un problème de visibilité et peut-être d'autodéfinition voilà, dans cette communauté-là. Donc hommes bi, sortez du bois, où que vous soyez.
Voilà, vous aussi, vous pouvez écrire à Paytabi.
Ouais. Alors, on va donner des petits conseils aussi, puisqu'il me paraît quand même assez urgent de déconstruire les clichés bien rances qui ont cours sur les personnes bi, et pas mal de fake news aussi à démasquer. Pour moi, une des idées reçues les plus répandues, c'est que bah, tout simplement, la bisexualité, bah, c'est comme les licornes, ça n'existe pas, c'est un mythe. Donc, les hommes bi seraient des gays refoulés, les femmes bi seraient des hétéros qui sont gay for the day, donc gays pour une journée, et donc qui expérimentent. Un petit peu comme dans la chanson de Katy Perry.
Aussi, on dit aux bi, c'est une phase qui va passer. Alors ça dépend qui le dit. Alors si c'est un ou une hétéro qui le dit, bah c'est pas cool, parce que c'est un peu pour dire non mais tu nous trahis deux secondes, mais tu vas revenir à la maison, il y a pas de problème. Et pour des personnes gays, c'est un petit peu la même chose, c'est ouais, tu dis ça, mais nous on sait en fait. On sait très bien qui tu es et tu vas revenir à la maison.
Donc, on sait mieux que toi qui tu es.
Voilà. Donc il y a quelque chose d'un peu affreux là-dedans, mais on peut pas aussi extraire le fait que parfois des personnes s'identifient comme bi, encore une fois parce que c'est une étape dans un parcours, encore une fois la fluidité, voilà, ou que c'est une étape aussi dans un coming out, puisque aujourd'hui faire son coming out, c'est toujours quelque chose qui nous expose à des violences. Et par exemple, si on fait ce coming out dans la communauté hétéro, c'est plus facile de d'abord passer par cette étape-là.
La case bi est quand même mieux vue.
Voilà, il faut aussi dire ça, c'est pas grave non plus, parfois, d'utiliser ce biais-là quand on est exposé à des dangers.
Alors, ce qu'on entend aussi souvent, c'est que toutes les meufs seraient naturellement bisexuelles. Donc ça, c'est une manière déguisée de ne pas prendre en compte les rapports lesbiens comme des rapports sexuels, et voilà, et d'entretenir les tabous autour de ça, tout en focalisant le désir sur les hommes, en fait, puisque c'est souvent quand même les hommes hétéros qui disent ça, alors que on sait depuis l'étude Ipsos qui a été menée en 2017 qu'en fait c'est plutôt les hommes qui couchent avec des partenaires du même sexe que les femmes, voilà.
Ça, c'est pas trop connu, quand même.
Non.
Un truc qui est dingue, et ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises, des personnes qui disent « Non, mais en fait, moi, j'ai le droit d'embrasser des meufs ou de coucher avec des meufs parce que mon mec, il me dit que c'est OK si c'est des meufs. » Alors ça, c'est juste...
Et en plus, ça l'excite.
Ouais. Alors ça, c'est juste atroce, parce que c'est atroce pour la personne hétérosexuelle qui sent la pression qu'elle doit avoir une expérience avec une femme pour plaire à son mec, première chose. Et deuxième chose, pour la personne bi, qui reste dans le placard, puisqu'elle attend l'autorisation de son homme pour faire, pour avoir le droit à cette incartade qui, en fait, correspond à sa sexualité. Donc, c'est juste atroce.
Et qui est niée comme sexualité, en plus, quoi.
Oui, et qui est niée par sexualité. Oui, faites-vous des chatouilles dans votre coin. Moi, je ne me sens pas trompée en tant que mec.
Ouais. Et sans oublier le grand classique, donc les bisexuels seraient hyperactifs, sexuellement libidineux, attirés par tout le monde, peu fidèles, voire polyamoureux. Donc, puisqu'on aurait souvent peur que son ou sa conjointe soit bi, parce que ça ferait donc deux fois plus de concurrence, deux fois plus d'inquiétude et de jalousie. Donc non, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, on écoute un personnage de la série québécoise Féminin de Chloé Robichaud qui en parle très bien.
Mais... Juste comme clarifier quelque chose, en fait, c'est que c'est pas parce que t'es bisexuel que t'as le goût de coucher avec tout le monde, tout le temps.
Le moment.
Pop culture.
Pop culture.
Alors, dans la pop culture, pour le coup, la pop culture a été vraiment raccord avec l'histoire et avec le pire de l'histoire, puisque la télé et le cinéma ont quand même beaucoup effacé les bis, tout en daignant quand même montrer au compte-goutte que ça pouvait être cool, qu'il pouvait y avoir un effet de mode, en entretenant surtout un double standard dans la représentation, c'est-à-dire de montrer que ça reste socialement tout à fait acceptable pour les femmes d'être bi, mais pas pour les hommes, puisque les femmes à l'écran sont souvent fétichisées, désirables et tout le temps disponibles sexuellement. Moi, je pense qu'un exemple très parlant pour la bisexualité, c'est la série anglaise diffusée sur Channel 4 qui s'appelle The Bisexual, qui vient d'être diffusée en ce début d'année et qui a connu pas mal de succès. C'est une série de Désirée Akavan, qui avait déjà réalisé le film Come As You Are l'été dernier sur les thérapies de conversion homo. Et son premier film, il s'appelait Appropriate Behavior. C'est une comédienne et une cinéaste d'origine iranienne, elle-même bi. Et dans la série, elle met en scène son personnage à Londres au moment d'une rupture avec sa copine. Et elle se met alors à sortir avec plusieurs mecs et elle s'installe avec un colocataire hétéro blanc.
You can still love and support each other and be on a break. Only a lesbian would say that.
I've never lived with a woman before, except my sister. Don't worry, I'm not going to try it on.
Thank you for that.
Don't shit where you eat.
Also, I'm gay.
Et donc son personnage dans la série récuse lui-même l'appellation bi, puisqu'elle dit bah en fait bi ça donne pas envie, il y a pas de modèle, et en face on lui répète bah en fait t'étais lesbienne toute ta vie et en fait t'aimes aussi les mecs, genre qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre.
When I hear bisexual, I think lame slut. It's tacky, it's gauche, it makes you seem disingenuous, like your genitals have no allegiance. It's not a cool thing to be, and it makes my fucking skin.
All right, Jesus. He was all fucking touchy about it.
I'll see you later. I love you. I'm fond of you.
Donc, je trouve que la série montre très bien en fait la confusion qu'il y a à naviguer là-dedans, y compris pour la personne concernée, puisque là, en l'occurrence, c'est une femme de 30 ans qui n'a jamais couché avec un homme, et aussi ses proches qui la pressent de choisir son camp. Et ça montre que souvent, en fait, on définit la sexualité, sa propre sexualité ou celle des autres, en fonction de sa relation présente. Et donc elle a été interviewée dans les Un Rock et elle dit « Cette étiquette, personne ne veut la porter. La plupart des bisexuels que je connais, si ils ou elles sont avec une personne du même sexe, alors ils ou elles se disent gays. Comme si bisexuel, c'était un terme inflammable. En appelant la série The Bisexual, j'ai voulu provoquer la discussion. » Je pense que c'est réussi.
Oui, tu parlais d'absence de modèle. Donc pour toutes celles et ceux qui sont un petit peu enfermés dans des définitions comme j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu un effet de mode en ce moment d'être bi, ça c'est le truc nouveau, ou ceux d'avant qui subissaient le fait qu'il n'y avait justement pas de modèle, personne n'est bi, eh bien c'est une grosse connerie, puisque depuis l'Antiquité, les exemples ne manquent pas en fait. On peut, par exemple, parler en littérature de Simone de Beauvoir.
Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme.
De Colette, de Virginia Woolf. Pour les mecs, on peut parler d'Aragon, de Burrow, de Lord Byron, de Casanova. Quand même, Casanova, quoi.
Ouais.
De Bret Easton Ellis. Il y a Sapphire qui nous avait estomaqué avec son roman Pulp. Il y a George Sand, Yourcenar. Enfin, il ne manque pas d'exemples en musique. On a John Baez, Josephine Baker, Azealia Banks, Marlène Dietrich, Lady Gaga.
I do like women. And...
Do you like men too, or just?
Oh yeah. Well, I've only been in love with men. I've never been in love with a woman. But that's really what the song was all about. Why, when I was with my boyfriend, was I fantasizing about women?
Cœur de pirate.
Cœur de pirate. Donc voilà, et parmi eux, moi, j'ai une petite passion. Enfin, nous partageons une petite passion pour Gillian Anderson.
La comédienne.
La comédienne qui a joué, par exemple, dans Sex Education, dont on avait parlé, dans X-Files, bien sûr. Donc, il y a pas mal parlé de sa bisexualité. Au début, justement, en refusant cette étiquette-là, c'est intéressant. Et aujourd'hui, elle est revenue sur ça. Et on peut parler de James Dean. James Dean, donc ce playboy du cinéma mort beaucoup trop tôt, la beauté suprême, qui vivait des relations avec des hommes. Lui, il refusait l'étiquette d'homosexuel. Il avait dit « Je ne suis pas homosexuel, mais je ne vais pas garder ma main derrière mon dos toute ma vie. » Donc, il ne se disait pas bi. Bon, c'était une autre époque. Mais oui, des modèles, il y en a beaucoup.
Il y a aussi des personnages de fiction qu'on peut retrouver à la fois dans la littérature et au cinéma, sauf que souvent, ces personnages n'ont pas cette étiquette ou eux-mêmes ne se présentent pas comme bi, donc il faut un peu faire la déduction soi-même. Il y a la hackeuse de Millennium, Lisbeth Salander. Il y a aussi les deux amants du film Call Me By Your Name.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Il y a aussi le personnage de Kalinda dans la série The Good Wife. Et récemment, la drag queen australienne Courtney Act, qu'on a vue dans la télé-réalité RuPaul's Drag Race, a lancé son émission de dating bi, qui est diffusée en ce moment sur la chaîne E. Ça s'appelle The Bi Life. Et donc, on va regarder ça d'un peu plus près quand on aura accès aux épisodes.
It is kind of hard to meet girls that are bisexual or lesbian.
I think if you look feminine, they immediately think you must be like straight and you have like a beautiful boyfriend. You're like, no. I am playing for both teams.
Yeah. Et alors, on peut aussi signaler quelques petits ratés. on se souvient que parmi les Spice Girls, Mel B avait dit pour elle que c'était juste une phase. Donc, un mauvais point.
Too bad.
Ouais, et dans Sex and the City, le personnage de Carrie, à un moment, fréquente un homme bi, mais elle-même nie complètement sa sexualité en disant « It's a layover on the way to Gay Town ». Donc, c'est vraiment un arrêt vers sa destination finale qui est l'homosexualité.
Oui, et dans How to Make a Murderer, cette super série diffusée sur Netflix qui est quand même hyper inclusive, il y a un des personnages qui apprend que son fiancé est bi et donc le jette direct en mode violent. Et même va jusqu'à le outer à sa mère en disant « ton fils est gay violent,
ouais,
un peu violent.
Double violence. Et alors, du côté des filles, qu'est-ce qu'on peut citer ?
Alors là, il y a un peu pléthore, c'est ce qu'on disait. Hein, les femmes qui sortent avec des femmes sont vraiment encouragées à être dans les séries. Donc, dans Elleward, il y a Alice qui est bi et ça se retrouve à plusieurs fois dans la série. Enfin, on voit que c'est compliqué pour elle d'avoir sa place dans son groupe de femmes lesbiennes. Que là, c'est une différence, c'est que...
Ouais, elle est un peu en marge.
Elle est en marge. Quand elle essaie de sortir avec un mec, elle se le prend dans la gueule. Quand elle est avec ses copines, elle se le prend dans la gueule. C'est intéressant.
D'ailleurs, The L-Word va faire son grand retour. On a trop hâte.
Oh oui, vraiment, on a trop hâte. Moi, j'ai un peu la crainte aussi, ouais. qui est mêlée, mais... dans The Fall, encore une série anglaise policière qui est super, Gillian Anderson encore elle, a un personnage génial qui est bisexuel. Mais ce qui est super bien, c'est qu'elle n'est pas présentée comme volage, mais juste hyper fière de sa sexualité, de sa liberté. Donc ça, c'est super bien. Et on peut parler petit moment plus belle la vie. On peut de temps
on
en temps.
On n'y échappe pas.
Il se trouve que la série donne parfois la place à des personnages LGBT assez chouettes. Et l'un des personnages historiques de la série, Andrea, avait vécu une histoire d'amour avec une meuf. Voilà, ça faisait un petit peu de bien parce que, justement, elle expliquait bien qu'elle avait du désir pour cette meuf comme pour les hommes avec qui elle était sortie. Je voudrais faire un petit focus spécial sur les séries carcérales. Orange is the New Black et Oz en particulier, où la bisexualité est présentée de façon intéressante. Piper est bi, elle est bi avant d'entrer en prison, donc dans la série Orange is the New Black, encore une fois sur Netflix.
And I have a girlfriend. I have a girlfriend that I love. So there.
Saw that coming.
So does that mean you're officially...
It means that I officially have a girlfriend.
Mais dans Oz, donc on se place dans une prison pour hommes cette fois-ci, la bisexualité arrive un peu comme un bricolage réconfortant. On est enfermé et donc on veut...
on doit composer avec la situation.
On doit composer avec la situation. Mais ce qui est bien, c'est que le personnage tombe amoureux, donc Tobias Beecher tombe amoureux d'un homme et c'est assez bien expliqué. Donc, c'est-à-dire que ce qui était présenté comme un bricolage au départ devient un amour tendre. C'est intéressant de voir les séries carcérales aborder ce sujet-là et parfois sortir un peu des marges de l'obligation à la bisexualité par défaut.
Les recommandations culturelles
de Quoi de Meuf.
Alors, dans les recommandations, moi, cette semaine, je voudrais recommander un roman qui s'appelle Le roman de Jeanne. L'autrice, c'est Lydia Yuknavitch et c'est publié chez De Noël depuis quelques mois. C'est un livre qui a été pas mal encensé aux États-Unis puisqu'on l'a comparé à Margaret Atwood, ce qui est souvent le destin de tout livre de science-fiction féministe. Donc là, c'est une réécriture futuriste qui se passe en 2049 de l'histoire de Jeanne d'Arc telle qu'elle a été racontée à l'époque par Christine de Pizan. J'espère que vous suivez. Donc Christine de Pizan, c'était l'une des premières grandes autrices de langue française officiant autour des années 1300-1400. Donc à l'époque, elle avait raconté l'histoire de Jeanne d'Arc. Dans ce roman, donc Christine de Pizan est une tatoueuse du futur. Le monde a été totalement vidé de ses ressources et une poignée d'élus et d'humains vivent, enfin survivent dans une capsule dans l'espace. Et donc, ce sont des humains qui sont devenus asexués, dépourvus de poils et de cheveux. Donc, c'est une humanité où la chair est triste. Et donc, la narratrice va raconter ce qui s'est passé sur Terre, comment on est arrivé à cet apocalypse. Et donc, ce récit va mettre en scène une Jeanne d'Arc futuriste qui s'oppose à un tyran masculiniste qui s'appelle Jean de Maine. Voilà, donc je vous le conseille, c'est assez excitant.
Alors, en tant que passionnée de Jeanne d'Arc, je suis j'ai plein d'étoiles. Tu me le prêteras, j'espère.
Bah oui. Et toi alors, qu'est-ce que t'as lu cette semaine ?
Et moi, est-ce que tu te souviens des Moomins ?
Oui !
Ces petits êtres trop mignons qui ressemblent à moitié à des hippopotames, moitié à des barbes à papa qui évoluent sur leur petite planète.
Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons aux bras, vous ne le regretterez pas.
Ils sont trop mignons. Ils ont été inventés par Tove Jansson. Qui est une autrice suédoise.
Mmh, évidemment.
Et là, sort La Peuplade, donc une super maison d'édition, sort Fair Play, son petit roman qu'elle a sorti à la fin de sa vie, où elle raconte la vie de deux artistes femmes qui partagent leur vie, leur maison, leur vie artistique et leurs réflexions de façon douce et tendre. Donc c'est un petit peu autobiographique, puisque Tove Jansson partageait sa vie avec une femme qui s'appelait Tuliki Pietla, et qui était artiste elle aussi. Mmh. Donc on voit dans ce roman toute la tendresse qu'elles ont pu partager et le fait qu'elles soient toutes les deux un petit univers ensemble. Elle raconte donc que les deux ateliers des personnes sont séparés par un grenier. Donc elles ont chacune leur univers relié par un grenier où elles, de temps en temps, installent une étagère, ont des discussions sur justement est-ce qu'on se suffit à nous-mêmes ou est-ce qu'on a besoin du monde extérieur pour nourrir notre réflexion, nourrir notre envie de trouver le monde joli. J'ai trouvé ce roman très très beau et encore une fois, je ne savais pas que les Moomins, c'était elles qui les avaient créés et voilà, c'est important de lire ce petit roman, je trouve.
Ouais.
C'est doux.
Des Moomins et des Gwynes, quoi.
Oui, des Moomgwynes.
Allô, allô.
Allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute. Alors, cette semaine, c'est Jem qui nous dit « Salut, pourriez-vous parler de l'expression « les gars » qui me dérange ?» Et elle met un hashtag « sisters » et un hashtag « humain ». Anne-Laure, est-ce que tu as une suggestion à faire ?
Ouais, j'avoue que c'est une question que je me pose souvent dans le collectif où je travaille. On dit souvent « les gars » et certaines personnes disent « hors de question que vous disiez ça, on est des filles ». Alors les gars, au début, c'est une traduction de guys. Aux États-Unis, on dit guys à tout va. Salut guys, comment ça va guys? Mais on est d'accord que sous les abords cool, puisque ça fait un moment qu'on ne dit plus les gens quand même quand on entre dans une pièce, la traduction française ne marche pas trop. On ne peut pas juste dire les gars, parce qu'on est en France déjà, et qu'il n'y a pas de neutre dans la langue de dépente. Donc guys, ce n'est pas neutre en français. Donc dire les gars, c'est considérer qu'un groupe est un groupe d'hommes. C'est un peu fantomiser encore le genre féminin. Donc bon. On a tendance à se dire qu'il vaut mieux pas rappeler que le masculin l'emporte sur le féminin. À la limite, tenter les meufs. Ou si vraiment vous voulez vous adresser à tout le monde à égalité, je sais pas, essayer salut, bonjour, je sais pas. Ou inventer quelque chose de différent, je sais pas. Ou people, si vous aimez bien l'anglais. Ou juste guys, à la limite. Mais ouais, les gars. On aurait tendance à dire que
ouais, ou copains, copines.
Ouais. Salut les copains.
Happy
salut
people. Les copines. Ouais, mais les copains, ça fait un peu masculin aussi du coup.
Ouais, j'avoue.
Donc
c'est dur hein.
Ouais. En fait, moi je suis plutôt pour tout féminiser. Donc même par exemple au collectif où je travaille les journalopes, il y a un seul homme et du coup c'est plutôt salut les copines et
Simon si tu nous entends.
Et machin, ouais.
Oui. Ou les meufs, hein. Moi je suis pour les meufs en générique.
Ouais. Bon, merci. Je crois qu'on a, j'espère, fait le tour de la question. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court. Salut Anne-Laure.
Salut.
Quoi de meuf est une émission de nouvelles écoutes animée par Clémentine Gallo
et Anne-Laure Pinault.
Avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Alexandre Moniol, au montage et mixage Laurie Galigani. Coordination, Laura Cuissard.